L'histoire est comme un clin d'œil furtif aux conséquences parfois inattendues. Clin d'œil à l'histoire,
une émission présentée par Raphaël
et Ben le samedi matin à 11h
sur Radio Bartas 107 FM. La Gestapo, troisième partie. Nous avons retracé dans la dernière émission le rôle joué par la Gestapo lors de l'entrée en guerre de l'Allemagne en 1939. Depuis l'accession d'Hitler au pouvoir en 1933, cette machine policière n'a cessé d'étendre ses compétences et de mettre la main sur le domaine civil du Reich en Allemagne. L'homme fort de l'institution, Heinrich Himmler, par de nombreuses intrigues et manœuvres, est parvenu depuis son accession à la tête des SS et de la Gestapo à élargir le champ de compétences de l'organisation ainsi que son domaine géographique. Pour rappel, la Gestapo, d'abord active uniquement en Prusse, c'est-à-dire dans une région correspondant aujourd'hui à l'est de l'Allemagne autour de Berlin, a étendu son hégémonie sur l'ensemble des polices politiques de tout le Reich. Et alors que la guerre approchait, ces réseaux allongèrent certaines ramifications au-delà des frontières avant même les annexions de l'Autriche, des Sudètes, puis de l'ensemble de la Tchécoslovaquie. Cela préfigurait en fait ce qui se produisit après le début de la guerre en septembre 1939 avec l'invasion de la Pologne où, là encore, un casus belli fut conçu sur pièce par des commandos affiliés à la Gestapo. Ces nombreux succès ont été permis par des réformes en profondeur menées par Himmler qui intègre cette Gestapo dans l'immense machine du Reichssicherheitshauptamt, le RSHA, l'office central de sécurité du Reich chargé de coordonner toutes les actions policières et de sécurité intérieure du Reich. Himmler s'entoura d'hommes convaincus du bien fondé de ses polices politiques qui pourchassaient avec zèle tous les ennemis du Reich, les communistes, les résistants à l'occupation après le début de la guerre et bien sûr ceux qu'Hitler appelait les races parasites dans Mein Kampf dès 1924, à savoir les tziganes et les juifs. La direction du RSHA est confié à Heinrich, dont l'efficacité lui permet de gravir les échelons dans le système nazi jusqu'à faire de l'ombre à Himmler lui-même. La direction de la Gestapo, quatrième bureau de ce RSHA, est confiée à Heinrich Müller. La question juive est cédée à Adolf Eichmann, dont nous reparlerons davantage lors du prochain clin d'œil. Ensemble, ces hommes ont travaillé pendant la guerre à améliorer l'efficacité de cette police jusqu'à ce que cette dernière devienne une institution véritablement criminelle puisqu'elle est directement responsable de la mort de plusieurs millions de personnes. Et encore, la violence qu'elle exerce au cœur du Reich et surtout dans les pays occupés pendant la guerre, notamment en France à partir de juin 40, s'accentue encore au fil de cette guerre. Comment la Gestapo, à la base simple police de sécurité, se forge un rôle grandissant pendant le second conflit mondial? De quelle manière ses responsables parviennent-ils à utiliser ce contexte de guerre en sa faveur?
Pour répondre à ces questions, nous allons voir comment la Gestapo devint active pendant la guerre en Europe occidentale. Nous verrons par exemple comment elle s'installe en France et le rôle qu'elle y joue. Puis, dans un second temps, nous étudierons plus précisément le rôle pivot que joua la Gestapo dans la mise en place du génocide, d'une phase expérimentale en Europe de l'Est, à une réflexion poussée, entourée de scientifiques et dont le mélange des idées donna naissance au terrible camp d'extermination après la conférence de Wannsee, réunie au début de l'année 1942. Clin d'œil à l'histoire
sur Radio Bartas 107 FM. Raphaël, l'entrée en guerre en Pologne permit à Himmler d'instaurer une dernière mutation. Les SS devinrent ainsi une véritable unité militaire motorisée et échangea de nom.
Oui, ce sont les fameux Waffen-SS. Des volontaires ont pu en plus être enrôlés par ces nouvelles unités et ont permis de gonfler davantage les effectifs SS à 100 000 hommes, 36 000 engagés et environ 64 000 volontaires. Désormais, les SS servaient de service armé intérieur chargé du maintien de l'ordre. L'armée n'était plus compétente dans ce domaine. et dès lors, les recruteurs SS avaient la possibilité de fréquenter les organisations de jeunesse. Or, ces mouvements de jeunesse étaient largement imprégnés par la propagande du parti qui mettait largement en avant les Waffen-SS. Et de cette manière, la police du parti s'assurait le recrutement et la fidélité des meilleurs éléments de ces jeunes, aux grandes dames de la Wehrmacht et des généraux qui, une fois de plus, protestèrent vigoureusement. Hitler leur a finalement donné raison au moment où se déclenchait l'offensive allemande en France le 10 mai 1940. Les généraux ont obtenu enfin que les agents de la Gestapo et du SD ne suivent pas les troupes de la Wehrmacht. Himmler trouva néanmoins un moyen pour que ces agents s'installent le plus rapidement possible sur le sol français. Il a demandé à Heydrich de constituer un commando autonome à mission spéciale, un Sonderkommando. Ces derniers avaient pour ordre de s'installer à Paris juste après l'arrivée des premières troupes allemandes. Et pour passer inaperçus, ils ont même revêtu les mêmes uniformes de la police militaire de la Wehrmacht. Ainsi, ils se sont installés de façon inaperçue à Paris, le jour même où les généraux allemands arrivaient dans la capitale française. Le lendemain, un agent du commando s'est rendu à la préfecture de Paris et a réclamé les dossiers des immigrés allemands, des juifs et toutes les personnalités politiques hostiles aux Allemands. De plus, le travail de l'Amt 6, le SD extérieur, avait commencé bien avant 1940. Grâce à tous ces préparatifs, la Gestapo était déjà en terrain connu en juin 1940. Du fait des tensions fortes avec la Wehrmacht, les commandos SD n'ont pu véritablement faire que du renseignement jusqu'en mai 1942 et subissaient encore la concurrence de l'Abwehr, bien mieux implantée sur le territoire français. L'armée préférait laisser la main à l'administration française qui était préexistante pour gérer les affaires intérieures. Et finalement, la seule fonction que l'armée ait pu céder à la Gestapo a été la section anti-juive dirigée par Daneker, lui-même sous les ordres de Adolf Eichmann. Ce dernier s'est appuyé sur les collaborateurs français, comme le capitaine Cézille ou Darquier de Pellepoix, qui devient commissaire général aux questions juives.
On arrive en décembre 1941, la police de l'armée a de plus en plus de travail et bon an, mal an, elle est débordée.
Et oui, alors de nouvelles tâches sont confiées à la Gestapo, notamment la sécurité de l'arrière des armées. Une fois le verre dans le fruit, la Gestapo a pu accroître rapidement le champ de ses compétences. Cependant, jamais la Gestapo n'atteint en France l'influence qu'elle a pu avoir ailleurs, comme en Pologne, notamment parce que des fonctionnaires collaborateurs français, tels que René Busquet, étaient parvenus à négocier leur autonomie. La Gestapo était néanmoins parvenue à mettre la main sur les enquêtes à mener contre les ennemis du Reich. Partout dans la zone occupée, ils disposaient désormais de bureaux où avaient lieu des incarcérations et des interrogatoires qui souvent dérivaient sur la torture, bien que le RSHA ait essayé d'encadrer ce qu'ils appelaient des entre guillemets, interrogatoires renforcés. Ainsi, une note rédigée le 10 juin 1942 a circulé dans tous les bureaux stipulant que
les interrogatoires renforcés ne doivent être appliqués que si l'on constate qu'au cours d'interrogatoires précédents, le détenu a connaissance de renseignements importants concernant l'ennemi, ou concernant des liaisons ou des plans et qu'il se refuse à communiquer. Ces interrogatoires renforcés ne peuvent être appliqués que contre les communistes, marxistes, bible-forchers, étudiants de la Bible, témoins de Jéhovah, saboteurs, terroristes résistants, agents de liaison, asociaux, travailleurs réfractaires polonais ou russes, vagabonds. Pour tous les autres cas, en principe, il faut une autorisation préalable.
Clin d'œil à l'histoire
sur Radio Bartas 107 FM. Donc, si je comprends bien Raphaël, au final, tout le monde peut être visé par une torture, mais simplement que cette note permet de rappeler que le RSHA garde la main sur la Gestapo.
Oui, mais le plus important, c'est qu'on estime que pendant l'occupation, environ 40 000 personnes, dont Jean Moulin à Lyon, sont mortes durant ces interrogatoires. Une fois l'interrogatoire terminé, les suspects pouvaient être déportés. Le nombre de convois a d'ailleurs augmenté de façon exponentielle au fil de la guerre. 3 convois envoyés en 1940, 19 en 1941, 104 en 1942, 257 en 1943 et 326 entre janvier et fin août 1944. Au total, cela représente environ 250 000 personnes. Et seuls 35 000 déportés sont revenus des camps. De nombreuses arrestations pouvaient aussi avoir lieu si les camps de travail avaient de gros besoins de main-d'œuvre. Par exemple, en 1942, le RSHA a demandé à la France de participer à cet effort pour fournir des prisonniers juifs. Le chef de la police de Vichy, René Busquet, est appelé afin de participer à une rafle massive qui devait avoir lieu au cours du mois de juillet dans la zone libre. À cette occasion, 40 000 juifs devaient être arrêtés par la police française pour être ensuite envoyés vers Auschwitz. Toutefois, Pétain et Busquet auraient négocié le fait que la police vichiste n'arrête que des juifs étrangers. La Gestapo et les SS seraient alors chargés des Français. Cette rafle a été organisée depuis Paris le 4 juillet 1942 lors d'une réunion dans les bureaux de la SS à Paris avec René Bousquet, Louis Darquier de Pellepoix, le commissaire aux questions juives de Vichy, Helmut Knorren, le plus haut gradé SS présent, et Theodor Dannecker, le chef de la police allemande en France. Il n'a pas été difficile aux autorités d'identifier les cibles potentielles de cette rafle, puisque, depuis le 27 septembre 1940, tous les juifs français et étrangers de la zone occupée devaient se faire enregistrer dans les commissariats de police. Et le 13 janvier 1942, la préfecture de police de Paris a ordonné l'arrestation des juifs étrangers présents dans la ville. Au total, 13 152 juifs ont été arrêtés et placés provisoirement dans le camp de Drancy et le vélodrome d'hiver, qui sert alors de prison le temps que l'on trie les détenus. Cette détention dura 5 jours dans des conditions particulièrement difficiles, et ceux qui tentaient de s'évader étaient abattus tandis qu'une centaine de suicides sont notés.
L'entrée du Veldiv était là, ici. Fallait se dépêcher. Et on entrait dans cette immense salle où c'était allumé les lumières jour et nuit. Ça résonnait, il y avait un bruit terrible, des hurlements. Ça, les souvenirs que j'ai, c'est tout le temps des cris, plus les haut-parleurs. Il faisait très chaud en plus. Les odeurs, alors les souvenirs que j'ai, c'est l'odeur. Ça devait être le premier ou le deuxième jour. On a entendu un bruit, une espèce de bruit sourd, et c'est une dame qui s'était jetée des gradins, là, qui s'était suicidée.
Avec très peu d'eau et de nourriture, les toilettes bouchées, certains tombent malades et meurent sur place. 13 152 personnes sont raflées entre le 16 et le 17 juillet 1942, dont 4115 enfants. Du Veldiv, ils seront envoyés vers les camps de la mort. Michel se souvient du manque de nourriture et d'intimité, de l'humiliation d'avoir la tête tondue par les policiers français. Il se souvient aussi du jour où sa mère a été appelée avec une centaine d'autres femmes. Elle sera envoyée à Auschwitz.
Ils ont fait venir une automitrailleuse allemande à l'extérieur du camp. C'est la seule fois où j'ai vu des Allemands pendant tout le temps où je suis resté dans les camps, que des Français. Et elle était là parmi les autres femmes. Et le souvenir que j'ai, c'est qu'elle faisait un signe avec ses yeux. Et c'est la dernière fois que je l'ai vue.
Michel et Annette sont livrés à eux-mêmes et envoyés à Drancy, dans le nord de Paris. Leur père, soudain un dirigeant d'une association juive bien placée auprès de la Gestapo, il intervient. Leur nom sera rayé de la liste. Ils ne seront pas déportés. Ils seront conduits à l'asile de Lamarque, un foyer pour enfants juifs. Sœur Clotilde risquera une seconde fois sa vie pour sauver Michel et sa sœur et réunir la fratrie.
Mais les frères sont arrivés. Alors là, c'était les larmes. Vraiment, surtout avec mon deuxième frère Jean, là, c'était des retrouvailles très humides.
Témoignage terrible d'un survivant, Michel Muller sur France 24.
Clin d'œil à l'histoire
sur Radio Barthas 107 FM.
Tous, enfants compris, sont envoyés à Auschwitz. Cette rafle du Veldiv du 13 juillet 1942, auquel la police française a collaboré aux côtés de la Gestapo, représente le quart des déportations des juifs français tout au long de la guerre. 13 000 juifs sur les 42 000 qui ont été envoyés vers les camps de la mort. De tous ceux qui sont partis pour Auschwitz, qui n'est alors pas encore en camp d'extermination, moins de 100 adultes ont réussi à survivre. Par la suite, l'emprise de la Gestapo s'est renforcée, notamment à partir du 11 novembre 1942, au moment de l'entrée des Allemands dans la zone sud qui faisait suite au débarquement américain à Alger le 8 novembre. Les secrétaires d'État à la Défense nationale vichyste, ainsi que le chef de la police de la zone libre René Bousquet, donnèrent l'ordre à leurs hommes de n'opposer aucune résistance. Tandis que les régiments de la Wehrmacht fonçaient vers le littoral méditerranéen pour y empêcher un débarquement des forces alliées, la Gestapo s'est déployée et a ouvert des succursales dans toutes les villes clés des régions du Sud, du 11 au 13 novembre, c'est-à-dire à Limoges, Lyon, Marseille, Montpellier, Toulouse et Vichy. Puis, un réseau de postes secondaires est ensuite créé dans un second temps. Par exemple, à Mende, cet office se trouvait aux 4 rues du Préclos.
D'ailleurs, pour mémoire, aujourd'hui encore, lorsqu'on passe sur l'allée Piancourt à l'intersection avec la rue du Préclos à Mende, on voit une sculpture rendant hommage à ces hommes et ces femmes torturés par la Gestapo.
À ce réseau de bureaux particulièrement dense, ajoutant en plus l'apport des collaborateurs actifs, comme les militants du Parti Populaire Français, le PPF de Jacques Doriot, ouvertement collaborationniste et instigateur des LVF, les Légions des Volontaires Français, officialisés le 11 février de la même année. Face à tout cela, la résistance progressait et s'organisait. Les communistes avaient rejoint en masse les maquis depuis décembre 1941 et le lancement de l'opération Barbarossa.
Alors pour rappel, l'opération Barbarossa est le nom donné au lancement de l'offensive contre l'URSS en totale violation du pacte germano-soviétique qui avait été signé une semaine avant le début de la Seconde Guerre mondiale.
Mais les rangs des résistances ont aussi vu leur rang s'élargir grâce aux réfractaires au service du travail obligatoire, le fameux STO, instauré par le gouvernement de Pierre Laval au début de l'année 1942. Or, la Gestapo voyait évidemment d'un mauvais œil cette progression et la structuration des maquis. La nécessaire radicalisation des polices en France, soutenue par le gouvernement Laval et les responsables nazis comme Karl Oberg, alors chef supérieur des SS et de la police en France en mars 1942, a accentué les tensions entre Pétain et Laval, et ce jusqu'à la mise en retrait du maréchal en novembre 1943. Le nouveau gouvernement écarta alors les derniers freins à une collaboration pleine et entière des services policiers français avec les forces d'occupation. C'est par exemple à ce moment-là qu'on s'est décidé à limoger René Bousquet. Mais ce dernier a tout de même pris le soin, avant de faire ses valises, de détruire de nombreux dossiers qu'il ne voulait pas que son successeur découvre, c'est-à-dire Joseph Darnan, bien plus radical et favorable à la collaboration d'État que lui. Karl Oberg, qui avait soutenu cette candidature, était persuadé qu'avec Darnan, la milice française allait devenir aussi zélée que les forces SS elles-mêmes.
D'ailleurs, dès le 10 janvier 1944, il lui donna tout pouvoir pour diriger l'ensemble des polices françaises, alors que René Bousquet n'avait jamais eu que de rôle de secrétaire général de la police.
Oui, et avec Darnan, les officines de la milice sont devenues de véritables annexes de la Gestapo. Elles ont d'ailleurs adopté les mêmes méthodes interrogatoires. Leurs détenus étaient directement remis aux Allemands, sans aucune formalité inutile. La police traditionnelle s'est peu à peu fait complètement supplanter par les services de Darnan. Rien que pour le mois de mars 1944, les autorités françaises ont arrêté plus de 10 000 personnes, soit plus que pour tout un trimestre de l'année 1943. Et à ces chiffres, nous devrions encore ajouter le nombre de ceux qui ont été séquestrés par la Gestapo, qui ne nous est jamais parvenu.
Il faut bien dire que ce genre de rafle qui a lieu partout en Europe pendant l'occupation entre dans la logique d'élimination de l'ensemble des hommes appartenant à ce que Hitler a appelé dans son livre Mein Kampf les races parasites, c'est-à-dire les juifs et les tziganes. Mais la décision et surtout la procédure d'élimination de ces populations a mis du temps à être choisie. Le front de l'Est servit de laboratoire pour le régime nazi. Contrairement à ce que l'on a pu voir à l'ouest, aucune collaboration avec la police locale n'a été amorcée dans les territoires occupés, notamment en URSS. Himmler était chargé par Hitler d'y maintenir la sécurité avec un pouvoir total en appliquant, je cite le Führer, des mesures de terreur seules efficaces.
Oui, et donc pour cela, Himmler a remonté des groupes de combat, des Einsatzgruppen, composés de SS, d'agents de la SD et de la Gestapo. Ces troupes de choc avaient déjà servi en 1938 lors de la campagne de Tchécoslovaquie. Heydrich s'était appuyé sur eux pour réprimer toute tentative de résistance de la population civile et procéder à l'épuration politique par la terreur. Quatre groupes de Einsatzgruppen ont ainsi été montés et chacun s'est vu attribuer un territoire. Ils ont commencé à opérer en juillet 1941. Les cibles de ces groupes étaient les juifs et les responsables politiques. Par exemple, à Riga, en Estonie, 35 000 personnes ont été massacrées, y compris les enfants. Si bien que responsable SS a d'ailleurs pu écrire fièrement le 31 octobre 1941 « Il n'y a plus de juifs en Estonie ». C'est lors de ces campagnes d'épuration à l'Est qu'ont été mis en place par le docteur Becker.
Alors lui, c'est un chercheur SS. Hein.
Voilà, les fameux camions S. S pour Sonder, c'est-à-dire spéciaux. Modifiés pour que les gaz d'échappement soient redirigés dans les bennes étanches où l'on entassait des détenus pour les asphyxier. En priorité, on a décidé d'y envoyer les femmes et les enfants afin d'épargner les SS qui n'auraient ainsi pas à les fusiller.
Ouais, ironiquement, comme quoi ils avaient un semblant de conscience.
Chaque fourgon pouvait transporter 15 à 20 victimes qui étaient directement transportées jusqu'à leur lieu d'inhumation. En 1942, le RSHA a distribué ses camions S aux Einsatzgruppen. Mais Himmler et Becker n'étaient pas encore satisfaits du rendement de cette méthode. De plus, ces camions S ont eu rapidement très mauvaise réputation au sein des populations civiles, qui les surnommèrent les fourgons de la mort. Les chauffeurs SS se plaignaient aussi de la difficulté de la tâche, des maux de tête, de l'odeur atroce dans les bennes lors des déchargements. Mais malgré tous ces inconvénients, les camions S ont fonctionné pendant plusieurs mois en Ukraine, mais aussi en Pologne et en Tchécoslovaquie. Du côté de Lodz, l'un des responsables nazis a estimé que dans cette région, 340 000 juifs ont été tués de cette manière. Le secret le plus grand entourait ces opérations. Les SS avaient l'interdiction formelle de parler de ces méthodes d'exécution, ce qui explique pourquoi l'existence des camions S ne fut révélée que lors du procès de Nuremberg en 1945. Quoi qu'il en soit, les camions S ont rapidement été abandonnés avant la fin de l'année 1942 et les Einsatzgruppen reprirent leur méthode d'exécution par balle. On estime au total que ces troupes de choc, soit un peu plus de 3000 hommes, ont tué partout sur le front de l'Est environ 1 400 000 juifs. Plus globalement, partout en Europe de l'Est occupée, la répression et la purge se poursuivirent tout au long de la guerre. Heydrich, toujours très ambitieux, parvient à récupérer en septembre 1941 un poste clé à la tête des polices tchécoslovaques et s'est appliqué à y mater les mouvements de résistance. Son travail était très apprécié à Berlin, tant et si bien qu'il commence à faire de l'ombre à Himmler.
Clin d'œil à l'histoire
sur Radio Bartas 107 FM. En vérité, l'opération Barbarossa a profondément bouleversé la politique anti-juive du Reich. Ces conquêtes massives à l'Est ont donné davantage de travail aux agents allemands, puisque ces territoires abritaient de nombreux juifs, n'est-ce pas ?
Oui, tout à fait. Et nous avons vu que, logiquement, le Reich a confié cette tâche à la Gestapo qui était spécialisée dans la lutte contre les juifs. Göring y a envoyé, en même temps que ces terribles Einsatzgruppen, une directive nouvelle à Heydrich. Je vous donne tout pouvoir pour entreprendre les préparatifs concernant une solution définitive de la question juive dans ceux des territoires européens qui se trouvent sous l'influence de l'Allemagne. Heydrich y a vu une nouvelle occasion de poursuivre son ascension fulgurante au cœur de l'État. Il était déjà le bras droit de Himmler, le directeur du Grand RSHA, le gouverneur du protectorat de Bohême-Moravie. C'est aussi lui qui dirigeait les quatre groupes de Einsatzgruppen. Et désormais, il était en plus aussi chargé par le numéro 2 du régime de tous les préparatifs pour résoudre la question juive. Le 29 novembre 1941, Heydrich se lançait dans cette nouvelle tâche. Il chargea Eichmann d'envoyer une invitation pour une réunion prévue le 9 décembre 1941 à Wannsee, dans une villa située à l'ouest de Berlin, à tous les chefs d'institution à laquelle il joignit une copie de la lettre de Göring, dont nous venons de lire un extrait, de sorte à affirmer son autorité. Mais le contexte militaire, marqué par une contre-offensive russe et l'attaque japonaise à Pearl Harbor, a empêché la tenue de cette réunion, qui est donc repoussée au 20 janvier 1942. À ce moment, on y retrouve 15 hauts responsables du régime, dont Adolf Eichmann, le chef du bureau des affaires juives au sein du RSHA, Heinrich Müller, l'adjoint de Heydrich à la direction de la Gestapo, des représentants des grands ministères du Reich, justice, affaires étrangères, intérieur, chancellerie et le ministère des territoires occupés, ainsi que le gouverneur adjoint de la Pologne, Joseph Bühler. Tous étaient, selon les spécialistes de la Shoah, convaincus de la nécessité d'éliminer les juifs. Ils avaient juste besoin de se mettre d'accord sur les modalités.
Avec l'arrivée des juifs allemands, la surpopulation du ghetto atteint un seuil dramatique. C'est pourquoi, fin 1941, Herbert Lang, employé au programme d'euthanasie, se rend dans un petit village polonais appelé Elmno. Là, il conçoit les plans d'un camp secret dont le seul but est l'élimination des juifs. La machine de mort est en marche. Le 7 décembre, le Japon allié de l'Allemagne bombarde la flotte américaine de Pearl Harbor. Le 11 décembre, l'Allemagne déclare la guerre aux États-Unis. Hitler considère une fois encore les Juifs responsables de cette escalade.
Nous savons qui détient le pouvoir derrière Roosevelt. C'est l'éternel Juif qui croit que son heure est venue. Ce qui entend nous faire subir le même sort qu'à l'URSS.
Le 20 janvier 1942 marque un tournant crucial dans la politique nazie d'extermination des Juifs. Ce jour-là, aux environs de Berlin, se tient la tristement célèbre conférence de Wannsee, durant laquelle est abordée la question de la déportation des Juifs et de la solution finale. La rencontre, présidée par Reinhard Heydrich, assistée d'Adolf Eichmann, qui sert de secrétaire, est destinée à en préciser les buts et les modalités.
Anstelle der Auswanderung hat der Führer inzwischen die Evakuierung der Juden in den Osten genehmigt.
Dans une première étape de la solution finale, les Juifs seront évacués vers l'Est et astreints au travail forcé.
Ein Großteil wird dabei schon durch natürliche Verminderung
au terme d'un processus de sélection naturelle.
Der verbleibende Restbestand
wird entsprechend behandelt werden müssen.
Clin d'œil à l'histoire
sur Radio Barthas 107 FM. Revenons donc un peu à cet événement fondamental de la Shoah avec cette conférence de Wannsee. Que s'y est-il véritablement dit ?
Wannsee, en fait, c'est plutôt un acte de naissance. C'est le point de départ qui va conduire le Reich à construire des camps d'extermination. Mais pour l'heure, au début de l'année 1942, il n'est question que d'adopter des principes qui conduiraient à éliminer purement tous les Juifs d'Europe. Il n'y a rien eu de plus concret que ça. Un long préambule de Heydrich au début de la conférence a permis de faire un état de la situation des Juifs d'Europe. Un document, par exemple, a circulé alors dans les rangs. On y lisait les estimations de la population juive vivant en Europe. Par exemple, en Pologne, on dénombrait 2 284 000 Juifs, pour la France 865 000, dont 700 000 en région non occupée. En URSS, on estimait le nombre de Juifs à 5 millions, dont quasiment 3 millions pour la seule Ukraine. A l'inverse, l'Estonie voyait sa colonne gratifiée d'un Judenfrei, comme on l'a vu plus haut.
Ouais, c'est-à-dire libre de juifs, puisque des massacres y avaient été très tôt perpétrés, et on a estimé que tous avaient déjà été éliminés.
Au total, les autorités du RSHA comptaient plus de 11 millions de juifs présents sur le continent. L'enjeu lors de cette conférence était de déterminer le devenir de ces juifs, comme on l'a entendu dans l'extrait, mais aussi s'assurer la collaboration des autorités locales. Ainsi, au terme de l'exposé d'Heydrich, Martin Luther, le représentant du ministère des Affaires étrangères de Joachim von Ribbentrop, assura que le régime de Vichy allait soutenir les autorités du Reich, et c'est d'ailleurs ce que nous avons vu lors de la rafle du Veldiv qui eut lieu l'été suivant. En revanche, il était beaucoup plus inquiet concernant la collaboration des pays nordiques. Joseph Bühler, représentant du gouvernement polonais, insista pour donner la priorité à, entre guillemets, l'évacuation des juifs polonais. Il déclara d'ailleurs
« Le gouvernement général de Pologne serait heureux de voir commencer sur son territoire la solution finale de cette question. » Là, en effet, le problème des transports ne présente pas de difficultés excessives et le déroulement de l'opération ne serait pas gêné par des considérations de main-d'œuvre. Il faut éliminer le plus vite possible les juifs de cette région. Le juif, en tant qu'agent de contagion, y représente un danger particulier et la continuation de son commerce interlope apporte un élément constant de désordre dans la situation économique du pays. De plus, sur les 2,5 millions de juifs en question, la majorité est inapte au travail. Il faut que l'on résolve le plus vite possible la condition juive dans cette région.
Voilà, donc c'est ainsi que s'est ouverte une réelle concertation sur les modalités d'une tuerie de masse. Eichmann, donc le secrétaire de Heydrich, a souligné au terme des discussions la satisfaction de l'Obergruppenführer au terme des débats puisque l'ensemble des hommes présents semblait adhérer au principe de l'élimination pure et simple des Juifs d'Europe, même si rien ne fut dit au sujet de la façon de les tuer. Toujours est-il que cette conférence donne un rôle prépondérant au SS quant à la mise en œuvre d'un génocide. Cette conférence de Wannsee a été suivie par la suite, assez rapidement, d'une petite vingtaine de réunions avec des responsables nazis de moindre envergure. Selon Alfred Rosenberg, gouverneur nazi des États baltes qui témoigne lors du procès de 1945, il explique.
En mars 1942, la connaissance de la solution finale a pénétré profondément, bien que de manière inégale au sein de la bureaucratie allemande où cette information suscite une volonté de contribuer à la tâche historique que le destin a confiée à l'Allemagne nazie.
Cela montre bien que l'ensemble des machines étatiques et bureaucratiques nazies se sont mises au service de ce projet de solution finale, destiné à éliminer la population juive du continent. Et ce sont les responsables de la Gestapo qui sont encore une fois à la manœuvre. C'est eux qui sont à l'initiative de ce dérapage du Reich qui sombre davantage dans la haine et l'horreur. La conférence de Wannsee est sans doute un point de bascule essentiel dans le processus d'élimination des races dites parasites. C'est sans aucun doute l'un des éléments qui a poussé la communauté internationale à juger la Gestapo comme une organisation criminelle lors du procès de Nuremberg, puisqu'elle est finalement, à l'image de Heydrich ou Eichmann, à l'initiative de la décision de construire des camps d'extermination.
Nous pouvons donc dire que la guerre a agi comme un catalyseur dans le processus génocidaire. Les conquêtes qui se sont multipliées à l'ouest comme à l'est ont jeté des millions de juifs entre les mains de la Gestapo. Et celle-ci a profité de cette nouvelle tâche qui lui était confiée pour prendre davantage de pouvoir à l'image d'Heinrich. Outre la question juive, la Gestapo marque également des points face à sa grande rivale qui était alors l'armée allemande. Devant la progression des mouvements résistants partout en Europe, elle est chargée du maintien de l'ordre et pousse davantage sur la touche l'Abwehr. Paradoxalement, et malgré la guerre, les directeurs du RSHA, Himmler, Müller, Heinrich, prennent une place grandissante dans la hiérarchie au détriment des grands généraux allemands qui dénoncent de plus en plus cet état de fait. Nous verrons d'ailleurs la prochaine fois que c'est ce qui causa en partie la perte du Reich et qui précipita la fin de la guerre. La Gestapo, à force d'ambition et entièrement vouée aux tâches qui lui incombaient, notamment l'extermination des Juifs, décidée lors de la conférence de Wannsee, a utilisé toutes les ressources possibles pour accomplir ses missions, quitte à sombrer dans la sauvagerie et l'inhumanité. Malheureusement pour lui, et nous le verrons aussi le mois prochain, Reinhard Heinrich n'a pas le temps de voir la concrétisation de ce funeste projet qu'il a lui-même lancé puisqu'il est assassiné au printemps 1942. Mais paradoxalement, malgré la mort de l'un de ses responsables les plus zélés, la Gestapo continue de se radicaliser et devenir une machine de mort implacable. Himmler, qui peut reprendre sereinement le contrôle de la Gestapo, qui commençait à lui échapper, renforce son étreinte sur le RSHA en y plaçant des serviteurs froids et loyaux. C'était Clin d'œil à l'histoire, la troisième partie consacrée à cette terrible machine qu'est la Gestapo. Préparée par Raphaël
et Ben
sur Radio Bartas, 107 FM.
Qui se souvient qu'un jour la scène fut témoin d'un crime de haine, un crime qui sait nous revenir. Le fleuve emporte les souvenirs. Pas besoin de vous faire un dessin, dresser la liste des assassins. La horde blanche est trépanée, les nazis on les connaît. Pas besoin de vous faire un discours sur les idées qui tournent autour. Populisme qui attise les rejetons de la bêtise. Pas besoin non plus d'avoir vécu le temps des rafles au coin des rues. Béton, pas bon, les compagnies. Pour les fascisants, le temps béni. Pas besoin d'avoir vu la milice pour reconnaître ses petits-fils, ceux qui ont délaissé le béret contre cerveau rase de près. On a mis dans la Seine des fleurs sous les ponts de Paris, là où Chartres m'a péri.
L'histoire marche encore au pas, sous des drapeaux qui ne changent pas. Et tous les suppôts de Jeanne d'Arc, le soir venu, passent à l'acte. Et si la France réactionnaire se cherche un nouveau bouc émissaire, personne ne pourra taire, personne ne pourra taire notre village planétaire.
Connerie nationaliste.